Dans Zapmonde, tout au long de cette semaine, c'est la Camargue d'Alex Descotes, le retour en Camargue d'Alex Descotes. Alex, bonjour.
Bonjour.
Hier, avec Manitas de Plata, nous n'avons martyrisé que des guitares. C'est vrai?
Oui, c'est
Et encore
vrai.
Pas trop. Aujourd'hui, vous allez réellement faire retourner Brigitte Bardot, non pas dans sa tombe, mais dans sa retraite, en suppliciant des taureaux.
Suppliciant des taureaux?
Vous n'avez pas tué des taureaux aujourd'hui?
Écoutez, il faudrait qu'une fois qu'on fasse la clarté sur ce qu'est la course camarguaise.
Ah d'accord, vous pas faire du mal au taureau, là.
Il y a des arènes, et c'est vrai qu'il y a des arènes à Nîmes, c'est vrai qu'il y a des arènes à Arles, que parfois on y tue les taureaux, mais c'est pour la course espagnole. Ouais. Et les manadiers et les gardiens et les habitués, les aficionados de la Camargue, eux, ce qu'ils aiment, c'est la course camarguaise. Or, la course camarguaise, elle a un roi, et ce roi, ça n'est pas le torero. C'est le taureau. Un taureau qui rentre, dont d'abord le public connaît le nom avant même qu'il entre en scène.
C'est lui la vedette.
Lui la vedette. Mmh. Certains taureaux d'ailleurs qui sont morts de leur belle mort ont aujourd'hui leur statut sur les places des villages. Et le taureau, c'est le roi. C'est le roi, c'est le fauve, la bête sauvage, c'est vrai. Mais à la fin de la course, il repart, personne ne l'a blessé. Et en revanche, il se pourrait bien que les rasteurs, ceux qui essayent d'aller prendre entre ses cornes
la cocarde.
La cocarde ou le gland ou la ficelle, eux, soient blessés. Donc le taureau, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il s'amuse, mais enfin, entre taureau de boucherie et taureau de Camargue, moi je choisis tout de suite taureau de Camargue, que ce soit clair.
D'accord, hein. Il prend de l'exercice.
Et puis ensuite il retourne à une liberté que nous sommes finalement peu nombreux à avoir, je vous le rappelle ici-bas.
Il était bien dedans.
Alors, la course camarguaise...
Pardonnez-moi, le verbe supplicier.
Oui, il n'y a plus question. Donc, la course camarguaise, c'est en effet cette course qui consiste, pour gagner un petit peu d'argent, ou pour se faire plaisir, ou pour jouer au héros, à aller prendre entre les cornes non emboulées d'un taureau sauvage, ces espèces d'éléments qu'on y a fixés le matin. Et ça n'est pas facile, il faut courir plus vite que le taureau, si possible pas dans le même sens, passer juste devant lui avec un peigne, une espèce de peigne qu'on a entre les mains, qu'on appelle le raset, d'où le nom de rasteur, aller enlever ça
et
puis s'en aller très vite derrière les barrières, étant entendu que parfois le taureau saute aussi les barrières, donc mieux aller le plus loin possible. Non, la course camarguaise, c'est tout sauf de la barbarie à l'égard des animaux. Moi, je dirais que si je devais être un jour réincarné en Camargue, je choisirais d'être réincarné en taureau.
Plutôt qu'en cheval.
Oui, éventuellement en gardien, car on a la liberté, pas beaucoup d'argent. Un peu moins en manadier, parce qu'on n'a jamais d'argent, mais qu'on a quelques responsabilités, à commencer par celle de la manade, donc du troupeau. En cheval, non, en effet, pas tellement, parce que tant au travail avec les taureaux, où on risque de prendre des coups de corne, qu'avec des touristes qui ne savent pas très bien de quel côté il faut monter, ça n'est jamais très simple. Puis alors, il y a une seule chose que j'espère n'être jamais en Camargue, c'est...
C'est guitariste.
Non, c'est touriste. Voilà. Donc, ces éléments étant posés, on va parler aujourd'hui un petit peu de la Camargue et des Jeux, mais d'abord voir comment cette vie camarguaise a évolué. Il y a quelques années encore, j'avais assisté à des transhumances de manades, donc de troupeaux entiers, y compris de troupeaux de chevaux, de manades de chevaux. Ce sont là des choses qui ont évolué. Ça se passait à l'époque dans une manade des frères Blatière, et aujourd'hui le neveu du propriétaire de Fredou Blatière, Jacques Blatière, eh ben, il est devenu pharmacien à Saint-Laurent-des-Gouze, mais en réalité sa vraie profession, c'est manadier, et il observe ce travail avec à la fois de l'affection et du recul.
Il y a quelques lustres, disons, déjà, la manade s'autosuffisait, les manadiers faisaient de l'élevage pour la course, quasi exclusivement. Hein. Les journées festives étaient réservées à des réceptions d'amis uniquement, alors qu'actuellement, il y a une activité touristique qui s'est développée en parallèle à l'activité d'élevage, qui est assez importante.
Et ça a été un cas de conscience de s'ouvrir à ce genre d'activité, puisque tout de même un certain nombre de manadiers continuaient à regarder le tourisme avec une certaine distance, voire parfois une certaine agressivité. Alors, comment avez-vous, par exemple...
Il y en a encore qui regardent ça, mais je crois que c'est survie oblige. Survie oblige, on ne peut pas... L'élevage en lui-même, la course... la course camargaise, qui est la finalité de l'élevage en Camargue, n'arrive pas à suffire. Enfin, la rentrée d'argent économiquement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir vivre convenablement. Donc, qui développe la promenade à cheval, qui, je vous dis, développe la bravade, l'ancière, toutes ces activités. Mais on peut se poser la question de savoir s'il ne peut pas y avoir certaines dérives ou une évolution qui ne soit pas trop respectueuse de ce qu'étaient exactement les jeux taurins comme nous l'avons vécu il y a longtemps. Maintenant, bon, peut-être moi aussi, les ans passent sur moi et ai-je un peu la nostalgie de mes 20 ans.
À propos de dérive, vous pensez que cette dérive pourrait toucher par exemple le monde des raseteurs? Il y a 20 ans, on avait déjà l'impression qu'il y avait ceux qui venaient là pour le plaisir et ceux qui déjà venaient pour l'argent.
Tout à fait, mais même chez nous, les manadiers, enfin, la notion de business a pris le pas un petit peu dans tous les secteurs d'activité qui correspondent à la course libre, que ce soit les raseteurs, que ce soit les manadiers. Il faut arriver à vivre, voire à survivre quelquefois. Donc cela peut générer certaines dérives.
Alors justement, il y a 20 ans, je crois que Pierre Aubanel était pratiquement le seul à pratiquer systématiquement la bravade et la bandide, et un certain nombre de manadiers d'ailleurs le montraient un peu du doigt en disant c'est déjà une dérive. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux, semble-t-il.
Ah oui, bon, mais je me souviens de l'époque où nous disions, bon, mais lorsque la manade Aubanel aura disparu, plus personne ne voudra se risquer à galoper sur du goudron parce qu'il y a trop d'embêtements, il y a trop d'accidents, en fait, c'est vraiment trop risqué. Et puis après, il y a eu un phénomène qui s'est produit qui était de la mer. Actuellement, il y a l'an dernier, je crois qu'il y a eu 1500 à 2000 abrivades qui se sont déroulées dans la région. Quelque chose qui paraît l'abrivade. Mais on appelle ça abrivade, mais en fait, c'est un peu une dérive. Ce sont des jeux de rue, uniquement, puisque l'abrivade traditionnelle étant la conduite des taureaux dans les arènes pour participer à la course, sachant que les taureaux des courses étaient devenues plus méchants, on accompagnait lors des abrivades des taureaux qui étaient plus dociles, disons, et qui se laissaient beaucoup mieux mener. Là, ça allait. Mais actuellement, on ne fait plus de courses et on arrive à faire des abrivades. J'en suis ravi pour les manadiers qui se sont spécialisés, parce que certains manadiers, l'abrivade est une grosse partie de leur activité, donc de leur rentabilité.
Parmi les activités liées à la manade, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y avait encore un certain nombre de transhumances, de taureaux d'une part, de chevaux aussi, alors même qu'il y avait suffisamment de camions, qu'on appelle des chars ici, suffisamment de camions pour transporter entre l'été et l'hiver l'ensemble du bétail d'un lieu à l'autre. Est-ce que ces transhumances existent encore?
C'est tout à fait terminé, ça c'est... C'est quasiment impossible. Nous n'avons plus de bêtes. Les transhumances, là, il existait dans un troupeau des bêtes jeunes, des bêtes adultes, des bêtes de vieilles bêtes, enfin de plus ou moins vieilles bêtes. Et je pense que c'est les vieilles qui avaient l'habitude de transhumer faisaient ça tout à fait naturellement et éduquaient le reste du troupeau. Actuellement, on se retrouve à avoir interrompu cette activité et envisager une transhumance comme elle se faisait, les transhumances des Sainte-Marie ou de la région de Sainte-Marie sur le Quai-là, ça a été les dernières, c'est donc Henri Aubanel qui les a faites, je m'en souviens. Actuellement, nous n'avons plus du bétail qui puisse faire ça. L'exploitation aussi agricole de la Camargue, actuellement, il n'y a plus ces terres immenses, ce sont des rizières, ce sont des vignes, ce sont des... même s'il y a des jachères, et puis après, bon, il y a des ponts, il y a des routes, donc c'est quelque chose qui actuellement paraît impossible. Il y a quelques années, je sais pas, 5 ou 6 ans, une transhumance avait été envisagée qui partait du Grand Radeau, pour ceux qui connaissent, la manade Reynaud, qui longeait la petite route jusqu'à Sévéréal, et par le pont des Touradons, rejoindre le Quélard. Ça a été quelque chose d'un loupé magistral. Ça a été un succès médiatique, parce que beaucoup de télévisions, Antenne 2, les FR3, les trois chaînes françaises, les trois chaînes principales françaises s'y étaient intéressées, des caméscopes, enfin, c'était vraiment la grande journée, mais ça a été un loupé, parce que je crois qu'on était parti, je crois, avec 60 ou 80 bêtes, hein. Mais on en avait perdu 90. Parce qu'il y en avait qu'on avait récupéré une fois, on les avait reperdus une seconde fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On était parti avec 50, on en avait perdu 150. Il faut vous dire le coup. Parce qu'il y en avait qui avaient gazé le Rhône, même, il y en avait qui avaient échappé, qui avaient gazé le Rhône, qui étaient revenus. On les avait raccompagnés avec un char, on les avait remélangés au troupeau et on les avait reperdus. Donc on n'avait pas fait force pour l'un. Ça n'avait pas du tout marché.
Malgré cela, j'ai noté deux jolis mots dans le parler de Jacques Blatter. L'abrivade, je crois qu'il l'a expliqué assez clairement de quoi il s'agissait. Et là, bandide.
Oui, alors, l'abrivade. Bon, je rappelle en deux mots. Le matin, on amène d'assez loin à l'extérieur du village, jusque dans le toril, 5 ou 6 taureaux. Il vous a expliqué que ce n'était plus aujourd'hui les taureaux de la course, mais qu'on en serre avec les chevaux vraiment très très près. On en fait une espèce de triangle qui avance au pas. Pourquoi très près? Parce que si le taureau a un tout petit peu d'espace, non pas il s'enfuit, mais il va donner un grand coup de corne. Donc le seul moyen de l'empêcher de donner les coups de corne, c'est l'empêcher d'avoir du recul. Et puis la bandite, c'est le contraire. À la fin de la course, lorsque la nuit est sur le point de tomber, eh bien, on lâche dans la cité 5, 6, 10 taureaux que des cavaliers essayent de rattraper pour les empêcher de se sauver. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ça se passe sur le goudron ou sur les pavés et il y a passablement d'accidents. Mais c'est ça qu'aiment les touristes.
C'est à la fois la tradition et le spectacle.
C'était à l'origine, on le faisait naturellement pour emmener les taureaux. Mais maintenant, comme c'est ce que demandent les touristes, et comme le tourisme, Jacques Blatter vous l'a dit, ça permet de gagner sa vie, et ben ma foi, on le fait. Et c'est peut-être intéressant, vous vous rappelez qu'hier, on était avec le père Morel, qui est le curé de Sainte-Marie, et c'est intéressant, et lui, il les voit bien, ces rapports entre les vrais Camarguais et les touristes. Il les observe. En fait, c'est une espèce de jeu du chat de la souris, c'est un mélange d'amour et de haine. Écoutez-le.
Ils sont bien sûr différents. Mais ils font quand même bon ménage, parce que les uns vivent des autres. Pour le Camarguais rural, actuellement, tout a changé, tout est mécanisé, le riz se sème par grand semoir ou même par hélicoptère, les granges sont vides, et nos Camarguais ruraux ont fait des gîtes d'étape. On fait des tables ouvertes, des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes pour l'été, pour le vacancier, et pour l'hiver, pour les chasseurs. C'est un complément de ressources. Alors, ils en sont heureux, mais évidemment, ils ne veulent pas qu'il y ait un piétinement du territoire et qu'on défigure cette Camargue qu'ils aiment, bien sûr.
Donc le temps où on disait, heureusement qu'il y a le Mistral et les moustiques pour nous protéger des Parisiens, ce temps est passé.
C'est le marquis de Baroncelli qui le disait, oui. Non, il est passé. Dire qu'ils font bon ménage, ils sont quand même très différents. Certains alors comprennent cette manière d'être, cette manière de vivre, et ils sont aussi très attachés. Ils reviennent, et deviennent aussi des amis de toutes ces familles-là. Puis alors il y a tout le domaine du tourisme massif. Alors les groupes qui passent, troisième âge, scolaire, associations diverses. On en est à 1 500 000 visiteurs. Alors évidemment, il y a un apport, si vous voulez, pécuniairement parlant, mais il y a aussi, heureusement qu'il y a le temps d'hiver, où la nature reprend tous ses droits, et où la population reprend un peu sa vie associative.
Et bien sûr, cela a obligé un tout petit peu Alex Descotes, certains Camarguais, à se recycler, comme on dit, en tout cas, à diversifier leurs activités.
Oui, ils se sont diversifiés, mais disons qu'ils ont toujours essayé de le faire lorsqu'ils sont Camarguais, lorsqu'ils sont liés à la tradition camarguaise. Ils ont toujours essayé de le faire en évitant, et le père Morel le disait, en évitant de se laisser empiéter. Oui. Alors que d'autres qui sont, par exemple, les commerçants, et ils sont très très nombreux au Sainte-Marie, les commerçants qui sont installés là, eux, en fait, la tradition, le respect mutuel, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de gagner beaucoup d'argent le plus vite possible et de repartir. Et finalement, c'est peut-être cela qui pose le plus grand problème. Alors, on disait vivement l'hiver pour tout de même avoir un peu de souffle, et puis vivement la retraite pour d'autres. Parce qu'il y en a qui ont vécu des vies extraordinaires, et qui aujourd'hui, j'en ai retrouvé un qui s'appelle Julio Lopez. Il est gitan lui aussi d'origine, enfin il dit espagnol, mais il est gitan. Et il était clown torero. Parce que entre les courses, ben, ma foi, il faut parfois amuser les badauds. Et quand on est plutôt petit, qu'on n'est pas très très fort pour faire du raset, donc de la course camarguaise, pourquoi ne pas devenir clown, surtout si on est drôle de nature.
Pour faire un numéro comique.
Et oui, et puis on en vit. Dans ce monde-là, Julio Lopez, c'est la référence. Un certain nombre de jeunes essayent de le copier aujourd'hui. Et Julio Lopez, lui, il a quitté les arènes, il a quitté.
Relativement récemment, je crois bien.
Oui, tout récemment. Tout récemment. Et il est parti à la pêche. Mais enfin, bon, moi je l'avais rencontré juste avant et je vous propose qu'il nous explique maintenant comment lui est venu ce rôle, ce métier de clown torero.
C'est venu quoi. J'étais garçon boucher, en fait, j'avais fait l'apprentissage de boucher, j'étais devenu apprenti boucher. Et j'avais un camarade qui me disait, oh viens, il y a une course de taureaux aux arènes de Nîmes, une course de taureaux en boulet. Alors moi, comme les taureaux, je préfère aller au cinéma ou faire voir, dans le fin, du moment que le collègue il m'a dit, viens voir les taureaux, mais il dit, je vais venir. C'était une course de 6 taureaux en boulet, et donc, au premier, j'étais carrément sur les gradins, ça, pas de problème. Au second, le collègue il me dit, oh, tu descends ou tu descends pas? Et voilà, descendre, entre moi, je disais, mais... Et puis au troisième, j'ai commencé à descendre dans les barrières, dans la contre-pista. Alors là, j'appelais le taureau, je fais comme tout le monde fait à l'heure actuelle. Hein. Et puis quand l'entracte est passé, je me promenais dans la piste. Et nous avions remarqué deux jeunes filles, tous les deux, moi et mon camarade. Hein. Alors tout en promenant, l'entracte a eu passé, la trompette a sonné, mais enfin comme on était un peu occupé par ces jeunes filles qui étaient sur les gradins, et que moi je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait une communication qui se prononçait, et je reste là, et le taureau est sorti, mais moi je n'ai pas vu arriver. J'ai entendu crier les gens, je me suis retourné, et j'ai vu un taureau devant moi. Et j'étais à, au moins à 10 mètres de la barrière. Alors quand j'ai vu que je ne pouvais pas aller à la barrière, qu'il était trop près, j'avais un foulard à petit poil, assez grand, autour de mon cou. J'ai sorti mon foulard et j'ai fait une passe. Alors le public a crié bravo. Alors moi j'ai dit ça y est, tu es un taureau. J'ai refait une autre passe, le public a encore crié bravo. La troisième fois j'étais à l'infirmerie. Et c'est de là que le virus m'a pris. Ah, c'est de là, là, j'ai la hargne, le sang espagnol a peut-être parlé, mais c'est du moment que j'ai reçu une rouste par le taureau, j'ai dit ça y est, ça rentrait dans moi, et j'avais 16 ans. Hein. Puis après, un camarade m'a dit, écoute, tu vas venir à Zotier avec moi, tu vas passer professionnel. Alors le professionnel, c'est la tenue en blanc, c'est le crochet, puis c'est l'engagement, c'est le commerce, c'est... touche des sous, là, on commence à devenir quelque chose. D'abord, on commence toujours à zéro, le travail est très dur pour arriver, puis alors, par la suite, après, une fois qu'on est connu, tout est facile. Hein. Mais comme je ne suis pas grand, vous voyez, je mesure 1,56 m, je ne suis pas grand, alors quand même, j'étais un des plus petits raseteurs de cette génération. Et puis, à ce qui paraît que j'avais un genre comique. Or, tout en ayant un genre comique, et comme j'avais quand même... J'ai toujours cherché à comprendre les taureaux, vous voyez, les taureaux, les taureaux, les passes, comme elles se font, tout. Alors, petit à petit, je suis devenu un professionnel dans les clowns taureaux.
Mais un clown taureau, par rapport au raster, entre autres, comment était-il considéré à ce moment-là? C'était un artiste ou c'était un sous-produit, entre guillemets?
Ah non, 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 c'était un artiste. Alors le public, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, vous savez, faire rire avec un taureau, c'est très difficile, parce que ce n'est plus de la rigolade, parce que le taureau, lui, il n'a pas envie de rire. Lui, il sort, il a 2 ans, il est très jeune, d'abord, on ne peut pas le donner, d'abord, des corridas, on donne des taureaux de 3 à 4 ans, même 5 ans. Enfin, nous travaillons des taureaux de 2 à 3. Et là, il fallait faire des parodies comiques. Alors, automatiquement, pour moi, j'ai toujours, maintenant que je ne le pratique plus, c'est en le plus pratiquant que je me suis considéré le travail comme il était, vous voyez. C'est pas quand je le faisais. Parce que quand je le faisais comme ça venait. On n'apprend pas. On peut avoir envie de faire un clown, on peut être courageux, mais un taureau ne fera pas un clown. Par exemple, un taureau manqué, il essaiera de faire un clown, il aura toujours cet orgueil de faire des passes élégantes. Tandis qu'un clown, eh bien, ses gestes, tout, c'est le comique. Eh bien, ce sont des choses que, pour le public, c'est être un artiste. Moi, je ne me considérais pas comme un artiste parce que, plus cher, je ne m'en apercevais pas. Mais je trouve que j'ai vécu une vie d'artiste. Par la suite, c'est en plus le faisant que j'ai compris que j'avais vécu une vie d'artiste.
Avec regret, vous dites ça?
Non, pas du tout, parce que je me suis en allé quand même au bon moment, vous voyez. Alors, parce que j'ai pas voulu finir comme finissent souvent les clowns, qu'on en fait même des drames miséreux, comme des cloches, vous voyez, même la musique rentre dedans pour la rendre encore plus... Tandis que moi, non, j'ai préféré que les gens disent, mais pourquoi il s'en va.
Aux quelques doigts, le clown se meurt. quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon, pour quelques spectateurs. Sur un petit violon, pour quelques spectateurs. Ma qui va faire toi mal, esta pobre creatura. Ma qui va faire toi mal, esta pobre creatura. Ma che c'avete da ridere, portagli e tattura. Ma che c'avete da ridere, portagli e tattura. D'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix, comme il n'en a jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru.
Public, belle version de la chanson de Gianni Esposito, le clown, c'était Angélique Yonatos. Quant au clown torero que nous entendions là tout à l'heure, Julo
Lopez.
Même pas 1m60. Alors lui ne s'est pas laissé mourir dans l'arène comme un clown, il a pris sa retraite, comme gardien tout d'abord, et maintenant sa vraie retraite à la pêche.
Oui c'est ça, alors maintenant il touche sa retraite, ça ne va pas être grand chose, et il s'est déplacé du côté où il y a des rivières, il va à l'anguille, à la carpe, à la brème, mais en fait c'est vrai que lorsqu'il a quitté l'arène, lorsqu'il a cessé d'être torero, ben d'abord il n'avait pas tellement d'argent de côté, puis en fait il fallait qu'il travaille encore, ouais. Alors il s'est fait gardien dans une manade où il a passé plusieurs années. Et c'est là d'ailleurs que je l'avais rencontré la première fois. Et en fait, ce personnage qui venait de l'extérieur, il vous l'a dit, il était garçon boucher. Il n'y avait pas de raison qu'il s'amourache de la Camargue. Mais il s'est amouraché de la Camargue à travers les taureaux. Parce que c'est le taureau qui est le roi en Camargue. Et il vous l'a dit, il a eu une hargne contre ce taureau. Il a voulu prendre sa revanche. Et c'est comme ça qu'il a fini par l'aimer. Et aujourd'hui, pour Julo, quitter la Camargue, c'est impensable.
Même on me dirait, demain tu vas partir, tu vas découvrir un nouveau monde dans une étoile. Je le laisse pour ceux qui ont envie. Moi, mon étoile, c'est la Camargue. Et comme moi, il y en a beaucoup. Malheureusement, nous sommes que des gens pauvres. Elle est à moi, cette richesse. ça m'appartient, je vis, d'abord je fais ce que je veux, demain je vais chasser, après demain, je viens, si je ne veux pas, je ne viens pas à la manade, parce que nous sommes quand même trois, c'est mon camarade qui vient. Vous voyez, nous sommes libres, nous sommes des travailleurs libres, nous les horaires on ne les compte pas, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un travail à faire, on le fait, quand il est fait, s'il y en a un qui doit aller avec sa femme acheter, aller à Nîmes pour faire des emplettes, ben il y va, on lui dit, ne te casse pas la tête, nous, et puis nous, nous sommes toujours là, il faut être toujours attentif hein, sur les taureaux, parce qu'il ne faut pas qu'un taureau échappe du pays, et la vie, elle est là, elle est avec les bêtes, hein. Là, il y a un travail qui est intérieur pour arriver à former des bêtes, hein. C'est un travail exactement comme les Espagnols. C'est la mère, le père, vous voyez, on choisit toujours le taureau le plus méchant et le mieux armé pour le faire étalon. On sépare toutes les vaches sont séparées des autres taureaux. Alors tous ceux que pour pas qu'ils aient la pensée de... Parce que par exemple, il nous naît 71 bêtes, dont une quarantaine de vaches et une 31 bêtes mâles. Bon, alors les mâles, c'est pour le travail. Les vaches ne servent à rien, à quelques petites fêtes comme ça, mais le mâle, c'est réellement pour la passion du public. Mmh. Alors là, les 31 bêtes, alors là, dans ces 31 bêtes, quand elles arrivent à l'âge de 3 ans, elles n'ont jamais couru encore. Alors des fois, on en donne à des charlots à 2 ans, c'est tout. Et puis, alors à l'âge de 3 ans, on les essaie, une ou deux, trois fois. Selon leur comportement, parce qu'il ne faut pas trop les fatiguer aussi.
Mais on les essaye alors à l'intérieur de la propriété.
Non, on les essaye dans des public. Petits villages, en public avec des jeunes organisateurs, vous voyez, pour que. Et alors là, ils font que sortir, ils sont fous. Ils sont fous. Et par la suite, alors quand on sent qu'il y a un avenir vis-à-vis, et qu'il y en a réellement un qu'on a fait sortir trois ou quatre fois, qu'il est méchant, alors celui-là, on le garde, parce que chaque année, on change d'étalon. Et on garde le plus méchant, parce que. Le caractère du taureau, c'est la vache qui la forme, et la coiffure et la beauté, c'est le mâle. Alors on choisit toujours des mâles méchants, mais qui ont une jolie coiffure, vous voyez, une jolie corpulence. Alors en ce moment-là, on castre tous les autres. De là, on continue à 4 ans, alors on les fait courir un peu plus. Et puis alors à 5 ans, c'est le moment où réellement c'est le tremplin. Vous voyez, c'est le tremplin entre... où tu deviendras quelque chose, où tu vas aller à l'abattoir, voilà, parce qu'il faut quand même ça. Alors, comme la viande de taureau sauvage est très recherchée chez nous, parce que c'est une viande qui n'a aucun goût de sauvage, d'abord, je suis un ancien boucher, je peux en parler, et que c'est très, très fin, très gourmet, et puis ça mange ce que ça trouve dans la nature.
Donc ça se vend bien, quoi.
Oh, on n'en tient pas. Les gens de la région, les bouchers de la région se battent. Si on les écoutait dans une saison, il n'y aurait aucune malade dans la Camargue, rien que pour les manger. Vous voyez, moi je vous parle quand c'est un boucher. Eh bien, vous prenez un bistec de taureau sauvage, vous le mettez dans le frigo, vous le sortez au bout de 4 jours, il tombe toujours des gouttes de sang. Ça ne se compare pas. D'abord, il faudrait des livres pour expliquer aux gens ce que c'est que... Comment nous vivons, comment ce sont nos bêtes, le comportement, vous voyez.
Vous parlez beaucoup des taureaux, vous parlez peu des chevaux.
Mais il faut dire que nous, les chevaux, nous les dressons que pour nous. Les chevaux, nous ne sommes pas comme, par exemple, M. Pouche, par exemple, M. Malatier, qui a 100 et quelques chevaux. Nous, c'est uniquement, on dresse un cheval et plus personne ne le touche. Par exemple, moi, j'ai un cheval, mon camarade en a deux. Bon, eh bien, à moi, il me le donnera, mais il ne le donnera plus personne, même pas au patron.
Même pas au patron.
Et non, parce que nous n'avons pas beaucoup de chevaux, nous faisons que des chevaux de travail. Bon, ce cheval de travail, il est à la main de celui qui le fait. Alors, pour ne pas y casser la bouche, comme on parle, eh bien, on ne le donne pas... Il faut que, par exemple, ça soit un cas sectionnel. Chacun garde son cheval.
Vous n'avez pas avec le cheval cette espèce de rapport et d'amour que vous avez avec le taureau ?
Un peu moins. Un cheval, on l'aime parce que on sait que lui, il est facile. L'autre nous donne des difficultés. Alors, c'est justement la difficulté qui nous fait cet amour entre tous les deux. Qui tu gagneras, toi ou moi ? Cheval, c'est pas la peine, on gagne pas. Il est gagné déjà. Il n'y a aucune lutte. Hein. Tandis que le taureau, on le voit aujourd'hui, il a 1 an, demain il a 2 ans, et puis alors on commence à le manipuler. Alors là, lui, il ne veut rien savoir, il ne veut jamais rien savoir. Alors automatiquement, et voilà, alors on est toujours, notre cerveau est toujours, allez, on va voir ce qu'il fera plus tard, allez. C'est toujours pareil. D'abord, pour nous, en tous les pays, le taureau est roi. Alors, vous voyez, nous sommes en Camargue. Bon, en Camargue, vous voyez souvent des images avec des flamants roses, des chevaux, beaucoup plus que des taureaux. De temps en temps, on met quelques taureaux noirs. Et pourtant, les Camarguais, c'est le taureau qui est le roi.
Belle façon de parler de son métier et les taureaux surtout. Malgré le fait que Julot, le clown torero, n'a pas la même passion pour les chevaux blancs apparemment que pour les taureaux noirs, demain, Alex Descotes, ce sont les chevaux blancs précisément qui vont nous intéresser. Enfin, les chevaux de Camargue.
Oui, les chevaux de Camargue. Oui, bah parce que tout de même, même si Julot ne les apprécie pas, un certain nombre de manadiers sont des éleveurs de chevaux. Le cheval n'est pas élevé de manière sauvage, mais enfin, il a tout de même de la place, de l'espace par rapport à un cheval de haras ici ou que sais-je. Et puis, ma foi, c'est aussi pour nous qui allons, parfois, le premier contact que nous avons. On va d'abord à cheval sans les taureaux, et c'est seulement après qu'on
s'y... Peut-être mieux.
Oui, au début, il vaut mieux. Mmh. Et puis, on finit, grâce à ce cheval, par pousser réellement des manades de taureaux. Ça m'est arrivé, grâce à une expérience précédente argentine, j'ai pu, là aussi, m'infiltrer dans une manade. Et je dois dire que c'est une vie tellement différente, grâce au cheval, que cela vaut bien que demain, nous consacrions un rendez-vous au cheval et à lui tout seul.
Dans Zap Monde. À demain, Alex Descotes.
À demain.